franceinter.fr.
En 50 ans, le niveau global d'oxygène dans les océans a donc baissé de 2% et cela va continuer. Un résultat très attendu par les scientifiques du climat et une mauvaise nouvelle donc qui s'ajoute au phénomène déjà bien connu de l'acidification. La vie dans les océans sous pression et qui pourrait bien décliner. On en parle avec vous, Jean-Pierre Gattuso. Bonjour. Vous êtes océanographe pour le CNRS, au laboratoire d'océanographie de l'Université de Villefranche-sur-Mer. Alors, jusqu'à maintenant, on entendait moins parler de la baisse du niveau d'oxygène dans l'océan que de son acidification. C'est une découverte récente ?
Non, on sait depuis assez longtemps que l'oxygène a tendance à diminuer dans l'océan, mais c'est la première étude qui montre, qui est absolument globale, sur tous les océans, ainsi que jusqu'au fond en fait des océans. Tout le volume de l'océan a été estimé, et donc c'est la première étude de très grande ampleur.
Qu'est-ce que les chercheurs allemands qui publient cette semaine-là dans la revue Nature apportent de nouveau ? C'est vraiment cette globalité des mesures partout ?
Absolument, c'est cette globalité. Ils ont réussi à constituer une base de données extrêmement importante, très détaillée, sur beaucoup d'océans. Et ils montrent donc, comme vous l'avez dit en introduction, cette diminution globale de 2%. Mais il faut signaler que cette distribution n'est pas est inégale dans les océans. Par exemple, l'océan Arctique, la concentration d'oxygène a baissé de 7% dans l'océan Arctique.
7%, c'est un chiffre énorme.
Oui, c'est énorme. Et alors, ils n'expliquent pas vraiment pourquoi dans l'Arctique, mais je suspecte que c'est dû au fait que l'Arctique se réchauffe plus vite que les autres océans, et donc la perte d'oxygène dans l'Arctique est donc supérieure dans les autres océans ou mers.
La baisse du niveau d'oxygène est vraiment directement liée au réchauffement en lui-même, à la température ?
Oui, alors en partie. En fait, dans l'océan, il y a deux sources d'oxygène. Il y a l'atmosphère. Quand l'eau de mer est en surface, elle se charge d'oxygène, parce qu'il y a beaucoup d'oxygène dans l'air. Et l'autre source, c'est la photosynthèse, la production d'oxygène par les plantes. Et en fait, l'eau chaude contient moins d'oxygène que l'eau froide. Et donc le réchauffement de l'eau a tendance à faire perdre de l'oxygène par les océans. L'eau de mer se charge moins quand elle est en surface, quand l'eau est chaude, que quand elle est froide.
Alors, bien sûr, quand on parle d'oxygène, on pense tout de suite à la vie. Est-ce qu'il y a des formes de vie, des organismes qui sont plus menacés par cette baisse que d'autres ?
Quasiment tous les organismes eucaryotes sont affectés par cette diminution d'oxygène et très très peu survivent dans des zones quasi anoxiques ou anoxiques. Et donc, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. On le voit d'ailleurs dans les eaux côtières, pour des raisons différentes. Dans les eaux côtières, on a souvent des phénomènes, ou dans les rivières, des phénomènes où on voit les poissons le ventre en l'air. C'est dû à la diminution d'oxygène qui est due là à la pollution et pas au réchauffement ou au changement de circulation océanique.
Ouais, Jean-Pierre Gattuso, justement, vous parliez des 7% dans le cas précis de l'Arctique. Est-ce qu'on note dans cette région du monde une baisse sensible de la biodiversité marine, par exemple ?
Alors, c'est pas une zone qui est très bien étudiée, l'Arctique, pour la biodiversité marine. On a très très peu de données. Il y a peu de campagnes et on a très très peu de recul. Donc non, on n'a pas mis en évidence une diminution de la biodiversité marine encore dans l'Arctique.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ça impacte tout particulièrement cette région du globe ou pas?
Probablement, mais en fait, il faut placer aussi cette diminution de l'oxygène dans le contexte global de la crise environnementale qui affecte l'océan. L'oxygène diminue, on vient de le dire. L'acidité de l'océan augmente, vous l'avez dit en introduction, et la température se réchauffe. Donc ce trio forme un cocktail qui est particulièrement nocif pour les organismes marins. D'ailleurs, dans le passé, toutes les extinctions majeures, il y en a eu 5 dans le passé zoologique, toutes les extinctions majeures ont été liées en fait à une acidification, une diminution de l'oxygène et un réchauffement de l'eau. Donc on voit là quelles sont les conséquences que ce trio peut avoir dans le futur.
En ce qui concerne le CO2 atmosphérique, on est capable de faire des scénarios pour 2050, pour 2010. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour l'oxygène dans l'eau ?
Alors oui, dans un article qu'on a publié il y a 2 ans avec notamment Laurent Bopp du CNRS, Laurent a un modèle qui l'a fait tourner, qui a projeté en fait une diminution de l'oxygène global dans l'océan de l'ordre de 2 à 3% globalement d'ici 2100. Et on se demande maintenant, à la lecture de cet article paru aujourd'hui, si on n'a pas sous-estimé cette diminution future de l'oxygène, parce que s'il a déjà diminué de 2% globalement depuis 1950, alors que le réchauffement de la température de l'eau et les changements de la circulation océanique sont finalement assez récents, peut-être qu'on a effectivement sous-estimé la diminution future.
Il faut s'attendre vraiment à une baisse de quantité de vie dans l'océan, sous toutes ses formes ?
Alors, c'est extrêmement difficile à prévoir. Alors là, donc, il faut prévoir d'abord l'évolution de ces paramètres dans le futur, et puis de prévoir aussi l'impact que cela va avoir sur la biodiversité. Donc, on sait que des espèces vont disparaître, c'est sûr, mais les espèces vont aussi se déplacer, vont bouger dans l'océan. On le voit déjà aujourd'hui avec un déplacement de beaucoup d'espèces vers les pôles, vers des eaux plus fraîches. De là à projeter la diminution de la biodiversité, on n'en est pas encore là.
Ouais. Vous êtes très prudent quand même, hein, Jean-Pierre Guettouzeau.
Ben, je suis prudent, mais en même temps, je vous dis que dans le passé géologique, on a eu des extinctions avec ce cocktail, ce trio infernal de ces trois paramètres qui sont gravement affectés par ouais. les activités humaines. En même temps, c'est difficile de se projeter au-delà de quelques décennies. Je pense qu'il faut être prudent, mais tout en étant extrêmement inquiet. Mais en même temps, on a les réponses, on a les clés pour... ou le mode d'emploi pour contenir cette évolution. On sait ce qu'il faut faire. Là, il n'y a pas d'incertitude du tout. Si l'accord de Paris est mis en œuvre de façon complète, on sait qu'on va stopper l'évolution de l'augmentation de la température, de la diminution du pH, etc.
On va inverser la tendance ou on ne fera que retarder l'échéance ?
Alors, on va stabiliser. C'est-à-dire que pour revenir, par exemple, pour le pH, pour l'acidification, il va falloir très longtemps avant qu'on revienne au pH global en surface de, disons, des années 1850. Il va falloir plusieurs centaines d'années. Mais par contre, on peut, avec une mise en œuvre complète de l'accord de Paris, stabiliser complètement le pH et éviter qu'il ne continue à baisser comme il est en train de le faire.
Est-ce qu'un océan moins oxygéné pourrait être profitable à d'autres types de vie, des micro-organismes ou des choses comme ça ?
Alors oui, il y a des bactéries qui adorent les zones anoxiques. Et donc, d'ailleurs, on n'a pas relevé, mais dans l'article, les collègues allemands montrent que les zones anoxiques, c'est-à-dire dépourvues d'oxygène, ont quadruplé en volume depuis 50 ans, en fait. Et il se trouve qu'il y a des bactéries qui sont extrêmement friandes de ce type de conditions. Et il se trouve que ces bactéries, en fait, produisent du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre qui est 300 fois plus puissant que le CO2, donc une rétroaction positive sur la température.
Est-ce que ce phénomène est très rapide, Jean-Pierre Guettouzeau ? Est-ce que cette baisse a surpris les scientifiques ?
Enfin, moi, j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait, en 50 ans comme ça, un quadruplement du volume des zones anoxiques, ça m'a beaucoup étonné. En même temps, je sais pas mon domaine de recherche personnel, donc mais moi je suis très surpris. De la même manière, mais en fait finalement c'est pas si surprenant que ça, parce que quand on regarde l'évolution du pH et de la température, tout ça va très très vite. Pas depuis 1950, mais depuis la fin des années 70, on voit que tous ces paramètres, oxygène, pH, température, changent à une vitesse qui est extrêmement grande, et beaucoup plus grande d'ailleurs que lors des épisodes d'extinction dont je parlais tout à l'heure dans le passé géologique.
Voilà, donc cette baisse de 2% du niveau global d'oxygène dans les océans depuis 50 ans. Publication Nature, donc, qui paraît aujourd'hui. Jean-Pierre Guettouzeau, merci beaucoup pour vos explications.
Merci à vous.
À bientôt et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.